Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, le premier délit d'opinion de la saison, de l'année scolaire, appelez ça comme vous voulez. On est le mardi 3 septembre lorsqu'on enregistre cette émission, évidemment avec Charles Gave.
Bah oui, hein.
Qui est bien reposé après cet été quand même.
Bah oui, mais j'ai travaillé, vous savez, moi l'été, je travaille d'une façon différente, c'est-à-dire,
ouais.
Ce que j'ai expliqué dans mon papier cette semaine, c'est qu'il y a des moments où il faut réfléchir très très vite, et puis il y a des moments où il faut se poser et réfléchir avec une sage lenteur.
Ouais.
L'été est un moment au poil pour penser lentement.
Ouais, vous n'êtes pas vraiment en vacances, vous êtes juste pas à Paris en fait, c'est un peu ça.
Et puis je pense de façon différente, si vous voulez, à la place de suivre les marchés comme ça tous les jours, qu'est-ce qui se passe et tout, j'essaye de prendre du recul, voilà.
Mmh. Ouais, moi aussi, je fais un peu la même chose, je suis moins sur connecté sur les réseaux sociaux, tout ça, je suis un peu en retrait.
Le Châteauneuf du Pain peut être beaucoup.
Oui, effectivement.
Prendre du recul, c'est important.
Absolument. Pour commencer cette émission et donc cette nouvelle saison, je voudrais reparler en fait de ce qui s'est passé un petit peu cet été, parce que autant je crois que l'été dernier c'était pas passé grand chose, autant cette année l'été a été assez mouvementé. Que ce soit en France d'ailleurs ou aux États-Unis, mais je voudrais peut-être commencer avec les États-Unis parce que ça m'a l'air sûrement plus passionnant quand même.
Oui.
C'est-à-dire qu'en France, il se passe presque des choses, mais pas vraiment.
Aux États-Unis, en France, c'est assez simple, si vous voulez, c'est qu'il y a un nombre limité de menteurs qui ont le droit de parler.
Ouais.
Ils se parlent les uns aux autres pour nous faire croire qu'il se passe des choses, mais en fait, il se passe rien puisque toujours le même corneau qui passe au même corneau. Donc on est Bertrand ou n'importe qui, ça n'a strictement aucune importance parce que de toute façon, il gouvernera comme les autres et il aura toutes les mêmes choses. Tandis qu'aux États-Unis, il y a un vrai débat entre les menteurs et les non-menteurs, quoi. Donc ça devient intéressant.
Effectivement, en France, c'est un peu, on se pose un peu la question de quel corneau fera de toute façon la même politique de corneau que les autres corneaux.
Qu'ils ont toujours fait pareil, bon, tout en mentant à chaque fois. Donc,
voilà, donc c'est pas particulièrement passionnant. Donc les États-Unis, je rappelle un petit peu les faits, ce qui s'est passé, même si c'est pas forcément exhaustif, parce que je pense que ça prendrait une heure de tout récapituler. Mais donc il se trouve que Joe Biden était absolument en pleine forme, hein, selon les démocrates, et du jour au lendemain, à l'occasion notamment de son débat avec Donald Trump, il était plus apte à se représenter, selon beaucoup de journalistes et même des acteurs qui sont prononcés donc en défaveur de Joe Biden, alors que jusque-là c'était une
fake news. Si vous voulez, des gens très très importants comme les acteurs d'Hollywood peuvent juger de la capacité d'un homme à être élu ou à être élu. Donc
plus que ça, ils peuvent juger de si le peuple vote bien ou pas bien.
Voilà,
c'est notamment des gars comme George Clooney qui sont des démocrates de longue date, qui alors du jour au lendemain dire que Joe Biden était un petit peu fatigué, pour le moins c'était une fake news. Et puis le lendemain de son débat avec Donald Trump, c'était devenu une nécessité de le dire et de l'imposer au Congrès.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, l'espèce de pintade qui était vice-présidente, qu'on avait mis là par hasard, qui n'a jamais gagné un vote ou quoi que ce soit, Madame Kamala Harris, était parée de toutes les qualités instantanément. C'était devenu...
C'est vrai.
C'est donc, si vous voulez, il s'est passé un phénomène curieux, c'est qu'un jour avant, personne ne parlait de Madame Kamala Harris et tout le monde disait que le président était génial. Et puis un jour après, le président, il était bon, il pouvait prendre sa retraite, c'était fini. Et puis Kamala Harris était devenu un génie. Mmh. Alors on peut dire ce qu'on veut de Kamala Harris, mais qu'elle est un génie, c'est un peu fatiguant.
Ouais, là, c'est quand même un petit peu poussif. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose que j'ai du mal à expliquer de manière purement rationnelle. C'est-à-dire que le vice-président le plus impopulaire de l'histoire moderne des États-Unis, c'est-à-dire post-Deuxième Guerre mondiale, donc à savoir Kamala Harris, moins bien placé même que Joe Biden dans les sondages à la veille de son retrait, a littéralement bondi, c'est-à-dire que d'un seul coup en fait elle avait aucune chance de gagner, enfin du moins pas plus que Joe Biden, et en quelques semaines elle a bondi, aujourd'hui on la donne même favorite au score populaire, au vote populaire. Donc ça c'est quelque chose que j'explique pas vraiment, surtout que elle a quand même pas eu de, comment dire, d'interview retentissante ou de performance médiatique réussie.
Elle refuse d'être interviewée puisque là elle vient de faire une interview chez CNN qui était préenregistrée, qu'on a corrigé, etc., où elle est allée d'ailleurs avec le vice-président qu'elle a choisi.
Mmh. Et Tim Walz,
et qui est encore un autre braquassé d'anthologie. Donc vous avez deux personnes là, et qui ça n'est pas en direct. Donc,
et c'était quand même raté, en plus.
Et en plus, c'était complètement raté. Donc, c'est-à-dire que Kamala Harris n'a jamais, si vous voulez savoir ce qui est Kamala Harris, vous écoutez Tulsi Gabbard, qui est cette remarquable femme qui était dans l'armée, mais qui était démocrate d'ailleurs, qui s'était présentée à l'élection présidentielle américaine, ancienne pilote d'hélicoptère de la marine américaine, je crois, qui est une femme très brillante, et qui explique dans les... Il y a 3 ans, qui avait démonté Kamala Harris, qui expliquait que, par exemple, elle avait fait 3 choses qui étaient très 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 bien. C'est qu'elle avait condamné, je crois, 1500 personnes à aller en taule pour des histoires de marijuana. Et là, le journaliste lui avait demandé si elle fumait de la marijuana elle-même. Elle était morte de rire parce qu'elle en fumait. Donc, si vous voulez, elle était ministre de la Justice de l'État de Californie, quoi, ce qui était pas rien.
Tout à fait.
Puis ensuite, il y avait un homme qui était condamné à mort. Et vous savez qu'aux États-Unis, quand la justice, quand un type est condamné, quel que soit le procès d'ailleurs, si vous avez des pièces à décharge, vous êtes obligé de les donner. Or, il y avait les pièces à décharge qui montraient que le type n'était pas coupable, et elle refusait de les donner.
D'accord.
Donc, c'était pour un ministre de la justice, c'était un petit peu gênant, quoi.
Ouais.
Et puis, la troisième chose, c'était que elle maintenait les gens en prison plus longtemps que prévu, parce que ça faisait du travail pas cher pour l'État de Californie, parce que vous savez qu'on fait bosser les gars. Et donc, elle voulait recréer de l'esclavagisme. Donc, quand vous voyez ça et que vous dites que vous êtes une grande défenseur de la gauche, vous vous marrez, quoi. Vous dites, mais enfin, bref. Donc, Kamala Harris, c'est une créature du parti démocrate, qui est arrivée là parce qu'elle a été la maîtresse du principal personnage démocrate de Californie, puis voilà, c'est tout, quoi.
Ouais. Et puis il y a autre chose aussi qui fait rire beaucoup d'internautes sur les réseaux sociaux, c'est la question de ses origines. C'est-à-dire qu'au début de sa carrière, ça faisait aucune question qu'elle était d'origine en fait indienne. Je sais plus si c'est par son père, voilà. Et voilà, ça posait pas forcément de questions. Ça explique son teint de peau, son côté un
et
peu
indienne de vous savez de la partie de l'Inde où les gens sont assez bronzés, quoi.
Voilà. Et en fait, au fur et à mesure de sa carrière, et notamment depuis sa tentative de se faire élire au Congrès démocrate, enfin à la primaire démocrate en 2020, elle a commencé à mettre en avant des origines qui pouvaient être plus africaines. Alors on ne sait pas d'où ça sort, mais évidemment c'est fait pour... Il y a plus d'électeurs noirs que d'électeurs indiens aux États-Unis, et surtout dans des États qui peuvent être clés, je pense à la Géorgie, des États comme ça, où éventuellement le vote peut basculer en défaveur des républicains, et où si vous avez le vote noir de manière très puissante, ça peut vraiment faire basculer le vote. Et donc aujourd'hui, elle se revendique du coup d'origine africaine, du moins partiellement. Et d'ailleurs, elle surjoue un peu avec une espèce d'accent afro-américain qu'on entend
elle
beaucoup dans le sud.
Elle s'est mise à parler avec l'accent du sud des États-Unis, alors qu'elle n'a jamais foutu les pieds. Elle a été au Canada et en Californie, donc si vous voulez, elle a jamais vécu là. Donc cette façon, si vous voulez, de prendre l'accent des gens, c'est comme si c'est un peu ce que faisait ce brave le ministre de l'Intérieur là, qui ressemblait à Fernandel, qui parlait avec l'accent de Fernandel, là, comment s'appelait-il, Pasqua, mais lui, c'était son vrai accent, quoi.
Pour le coup.
il le forçait un peu, mais donc il y a tout un aspect de théâtre, de présentation. Dans le fond, on dit aux Américains, on vous avait voté pour un gars qui n'a pas fait campagne, qui était Biden. Donc le seul truc, c'était qu'il fallait pas que Trump soit élu. Donc bref. Et puis ensuite, donc Biden n'avait pas fait les primaires. Il a été déclaré vainqueur des primaires alors qu'elles avaient été faussées. Puis ensuite, derrière, vous avez Kamala Harris qui a été choisie, on ne sait pas pourquoi. Donc, ça fait 2 fois de suite qu'on amène à la présidente des États-Unis quelqu'un pour qui personne dans les primaires n'a voté.
Oui.
C'est-à-dire que maintenant, le système américain du Parti démocrate, c'est-à-dire, c'est nous, les gens du Parti démocrate, les Nancy Pelosi, qui désignons celui qui va être celui d'entre nous qui va y aller. Mais les primaires, tout ça, c'est plus la peine.
C'est vrai qu'au moins, Joe Biden avait le mérite d'avoir été élu par la primaire démocrate en 2020.
Oui, encore, c'était pas bien net parce qu'il était très en retard devant le type de gauche, là, Obama a téléphoné à tous les types en disant maintenant vous tombez pour Biden, et donc on a arrêté au bout de la troisième de primaire, on a arrêté, on a dit c'est Biden, quoi. Donc ça a été non, ils ont pas voté pour. Il avait été déjà pas nommé par les primaires.
Ouais, j'avais un peu oublié ça. Mais pour le coup, Kamala Harris a jamais été élue, même de manière un peu bizarre, par une primaire.
Jamais une voix dans une primaire. Ouais. Quand elle a fait campagne, c'est l'une des rares candidats qui a jamais eu une seule voix dans un seul délégué, quoi. C'est quand même étonnant, quoi.
Et il y a quelque chose d'assez curieux qui se passe, qui me rappelle évidemment votre clivage de l'empire du mensonge contre l'empire du rétablissement de la vérité, du moins, au moins du débat libre, de ce genre de choses. C'est le fait que, aujourd'hui, dans cette élection est peut-être la plus intéressante au moins du 21e siècle aux États-Unis, parce que on voit des anciens républicains qui se rangent du côté de Kamala Harris et d'anciens démocrates qui se rangent du côté de Donald Trump. Notamment, je pense évidemment à, je sais pas si c'est un tremblement de terre, mais enfin, c'est quand même un fait assez important, c'est RFK Jr., donc, qui était candidat indépendant. Ex-démocrate, évidemment, qui était crédité d'environ 6% dans les sondages, ce qui est vraiment beaucoup pour un indépendant, qui a donc abandonné sa campagne, qui s'est rallié à Donald Trump. Il y a aussi, donc, vous l'avez évoqué, Tulsi Gabbard, qui est une ancienne représentante démocrate pour l'État de Hawaï, et qui était aussi, donc, candidate à la primaire démocrate de 2020, qui s'est ralliée, elle, du coup, à Donald Trump.
Vous avez eu Musk. Musk, qui avait voté démocrate, et alors, qui avait... Vous avez l'impression que vous avez d'un côté les gars qui sont pour la liberté d'expression, l'amendement numéro 1 et 2 de la Constitution des États-Unis, et puis de l'autre côté, vous avez les gars qui trouvent que, dans le fond, le peuple, c'est pas ce qui est bon pour lui et qu'il devrait pas avoir le droit de se plaindre.
Ouais.
Donc c'est vraiment l'empire du mensonge contre, je dis pas l'empire de la vérité, mais la démocratie, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que de l'autre côté, en plus de ça, il y a aussi les familles, pour le coup, les grands pontes républicains des années 2000, la famille Bush, la famille Cheney, tout ça.
Le camp des démocrates. Mais parce que c'est les représentants parfaits de ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Tous ces gars-là, ils ont été mis là par le complexe militaro-industriel et ils continuent à défendre ça, quoi.
Ouais.
Donc vous avez, en quelque sorte, l'Amérique, la population américaine contre les élites financières et économiques, mais qui sont pas des élites parce que ce sont des gens qui, dans le fond, se sont vendus les uns aux autres. Enfin, les héritiers des Clinton, quoi.
Oui, c'est un peu les rentiers de la République.
En fait, vous pouvez presque dire c'est presque une élection entre les électeurs de Clinton et les électeurs de Reagan.
Ouais.
C'est-à-dire que Reagan, c'était vraiment l'Amérique. Vous savez ce que disait Tocqueville? Il disait quelque chose d'assez profond. Il disait la base des États-Unis, c'est d'essayer de faire le bien. S'ils cessent de faire le bien, ils cesseront d'être les États-Unis. Et c'était une phrase assez profonde. Il voulait dire par là que, dans le fond, la population américaine était une population assez gentille, elle voulait le bien. Et depuis à peu près les années Kissinger, qui a été une saloperie pas croyable, les États-Unis se sont convertis, dans le fond, à une espèce de cynisme, de justification de la force, d'abandon du droit, d'abandon de la morale, etc. Et ça s'est fait avec, justement, les Kissinger, les Clinton et tout. Donc aujourd'hui, on a une espèce de classe dirigeante aux États-Unis qui est fondamentalement pragmatique, cynique, corrompue, et qui n'a plus rien à voir avec la gentillesse fondamentale des États-Unis que vous trouvez encore dans tout le Middle West, etc. Donc pour moi, c'est vraiment une élection qui va se placer sur le plan de la morale. C'est curieux. Les États-Unis toujours... cette espèce de peuple gentil qui fait des conneries, mais ça paraît bête ce que je vais dire parce qu'ils ont fait des erreurs comme tout le monde. Mais non, mais ils étaient fondamentalement, ils cherchaient le bien fondamentalement. Et là, depuis un certain temps, depuis Kissinger, ils sont venus à la réelle politique, le truc, on va tuer ceci, on va créer des guerres partout. Alors ça a toujours existé aux États-Unis, mais ces derniers-là ont pris le pouvoir maintenant depuis, ça fait 20-25 ans qu'ils exercent depuis la chute du mur de Berlin. Et on peut pas dire que c'est beau, quoi. Donc vraiment, pour moi, c'est très curieux, mais c'est une élection qui va se placer littéralement quasiment sur un plan religieux.
Et d'ailleurs, justement, après la chute du mur de Berlin, non seulement c'était vraiment cette Amérique du complexe militaro-industriel qui avait gagné, mais en plus de ça, il avait gagné des deux côtés, du côté démocrate comme du côté républicain. Parce que finalement, la famille Bush, la famille Clinton, c'est quasiment la même chose, en fait.
C'est quasiment la même chose. Alors le seul qui est un peu différent, c'était Reagan, qui justement... Mais d'abord, Reagan, il a commencé à être malade. Le premier, il demande à saler. Le deuxième, il a commencé à avoir ses trucs d'Alzheimer, donc il était plus le même. Mais en même temps, il avait choisi comme vice-président Bush. Donc, on a bien vu que C'était parce que on aurait pu, on peut imaginer que quand le mur de Berlin est tombé, les États-Unis disent, bah écoutez les gars, bon, on a gagné la guerre, bon ben, on supprime l'OTAN.
Ouais.
Il n'y a aucune raison d'avoir l'OTAN, quoi que c'est que cette histoire. Pourquoi avoir l'OTAN? À quoi ça sert? Qu'on allait se battre contre qui? Qu'on a l'OTAN? Donc, à partir du moment où vous avez une alliance militaire comme l'OTAN, vous devez vous créer un ennemi de façon à justifier les dépenses militaires de l'OTAN, quoi. Et donc, ben oui, ça aurait pu exister. On aurait pu rentrer dans un monde où il y aurait eu, beaucoup moins de dépenses militaires. Ça aurait été très bien. C'est pas les meilleures dépenses. Puis, tout ça, ça s'est passé. Il y a eu, l'histoire a hésité de 90 à 2000 à peu près, jusqu'à le 11 septembre. Mmh. Et puis là, les États-Unis sont partis vraiment dans le mur.
Ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première élection, peut-être depuis, je me demande si c'est pas depuis 1976, où il n'y a pas un Biden, un Bush ou un Clinton dans les présidents ou vice-présidents, oui. Du coup, puisque la dernière fois, il y avait eu forcément Biden, la fois d'avant, il y avait Clinton, la fois encore avant, il y avait Biden en tant que vice-président, la fois d'avant, pareil, enfin voilà, vous faites à chaque fois, vous avez soit un Bush, soit un Clinton, soit un Biden dans l'équation.
Et tout ça étant soigneusement contrôlé par l'espèce de... C'est pas un con, mais on l'appelle militaro-industriel, mais il n'y a pas que l'industrie militaire, il y a aussi l'industrie
aujourd'hui, on pourrait pharmaceutique. Rajouter le pharmaceutique. Ouais.
Vous avez pharmaceutique, vous avez les grands groupes de médias, là, les Microsoft, etc. Et là, il s'est passé un phénomène curieux, c'est que Zuckerberg, le patron de Meta,
ouais.
a dit qu'il avait subi des pressions absolument extraordinaires, ce qui est inouï, parce que ça veut dire qu'il a menti devant le Congrès quand il avait dit que c'était pas le cas il y a un an. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'il peut partir en tôle. Hein.
Ouais, effectivement.
Donc s'il le dit maintenant, c'est qu'il essaye de le dire pour essayer d'un petit peu dédouaner maintenant, parce que si... imaginons que Trump gagne et que Robert Kennedy devienne le ministre de la Justice.
Ce serait drôle.
C'était le poste de son père qui a été assassiné. Donc, à ce moment-là, on va sortir tous les données, dossiers sur l'assassinat de son père et l'assassinat de son oncle. Et on va trouver tous les gars qui, aujourd'hui, ont essayé de tuer Trump, c'est-à-dire la CIA, le FBI, etc. Ouais. Cette espèce de groupe de criminels. Donc, si on commence à nettoyer les écuries d'OGS de ce groupe-là aux États-Unis, ce qu'on aurait dû faire il y a longtemps, il n'est pas du tout exclu qu'il y ait un certain nombre de gars qui sont chez Google ou je sais pas quoi, qui aillent en taule parce qu'ils auront menti devant le Congrès. Et donc Zuckerberg, en disant, en avouant avant les autres qu'il a menti, il se protège peut-être.
Mmh, ouais. Mais d'ailleurs, je pense qu'il se passe peut-être quelque chose dans la personnalité de Zuckerberg, c'est-à-dire que Zuckerberg est un démocrate depuis toujours, et il a un peu changé sa manière d'être, son style général depuis quelques mois, peut-être...
Depuis qu'on a essayé d'assassiner Trump.
C'est
l'impression que ça lui a fait un sacré choc, ça.
Oui, il a dit dans une interview que c'était le truc, je cite, le plus badass qu'il ait vu de sa vie. Ce qui est pas faux, hein. On va en reparler vite fait d'ailleurs. Et oui, il a un peu changé son style. Il avait un style un peu de geek démocrate auparavant, et aujourd'hui il a l'air un peu plus humain en quelque sorte.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs Facebook, enfin Meta se porte mieux depuis qu'il a un peu changé cette image là. Donc ça a aussi une influence sur tous ses actionnaires. Donc c'est quelque chose qui va falloir garder.
Tous ces grands groupes qui dans le fond faisaient les défenseurs acharnés de mensonges dans lesquels personne ne croyait. Ça devenait un peu ridicule, quoi. C'était c'est un petit peu ce qu'on a dit souvent ici. C'était la thèse de mon livre, que le mensonge, il devenait de plus en plus visible, et donc il allait s'écrouler, comme toujours le mensonge, quoi.
Ouais.
La vérité l'emporte toujours sur le mensonge. C'est une phrase de Jean-Paul II, quoi. Ça fait plaisir à dire.
Le souci étant que la vérité prend l'escalier, alors que le mensonge prend l'ascenseur. Donc on doit souvent attendre.
Ça fait
20
ans qu'on nous ment. Ça fait 20 ans qu'on nous ment. Donc maintenant, ça commence à se voir partout. Par exemple, je l'ai dit ce matin, mais je vais le redire. Vous prenez le PIB par habitant de l'Europe. Depuis 2007-2008, il a baissé. Donc ça fait 20 ans qu'on nous casse les pieds avec les grands succès de l'Europe, et 20 ans que les Européens s'appauvrissent à cause de l'euro et toutes ces imbécilités-là, et de Mme von der Leyen et des autres. Donc, à un moment ou à un autre, le peuple se rend compte qu'on lui dit « ça va de mieux en mieux », et lui, il se dit «
on le voit pas.
Pas vraiment
oui. ». On le ressent pas, on le voit
on
pas.
On le ressent pas, je peux pas mettre de l'essence dans ma voiture.
Et en plus,
donc,
ça,
c'est un mensonge, donc vous voyez le mensonge.
En plus, comme on est dans un monde quand même assez ouvert, on peut aller dans un autre pays, et donc on peut mesurer, voir comment nous, on a évolué, et comment les autres ont évolué.
On voit que les États-Unis vont mieux, voilà, toute l'Asie va beaucoup mieux.
On voit quelqu'un qui a voyagé aux États-Unis, à New York, par exemple, en 2010, et quelqu'un qui voyagerait aujourd'hui. Pour justifier les dépenses, ne serait-ce que sur une semaine ou deux, faut pas avoir le même salaire en 2010 et aujourd'hui.
Que clairement,
quand je dis 2010, mais il y a même une grosse différence qu'on peut mesurer depuis 5-6 ans.
5-6 ans, il y a une différence énorme. Et donc, ce qui est en train de se passer, si vous voulez, c'est que le mensonge est en train de se. Ce qui s'est passé en Union soviétique, c'est que Solzhenitsyn est arrivé. Et qu'il a dit que le Parti communiste ne représentait pas la classe ouvrière, que depuis qu'il était là, les gens s'appauvrissaient, que c'était abominable. Et tout le monde s'est dit, mais c'est vrai. Et donc, aujourd'hui, on est en train tous ces gens du mensonge qui nous expliquaient que la globalisation, la mondialisation, ça allait nous amener à de plus en plus de bonheur, plus en plus de richesse, etc., se rend compte que ça appauvrit tout le monde. Parce que, aujourd'hui, on n'a pas du tout fait une globalisation compétitive, on a fait une globalisation monopolistique pour que ça enrichisse un nombre limité de gens. Et que ça appauvrisse tous les autres. Et ça, c'était une décision politique. Et donc, les gens se rendent compte que leur sort est de plus en plus mauvais. Donc, logiquement, ils devraient voter contre ça.
Ouais.
Mais ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pour ainsi dire aucun parti en France, par exemple, on l'a bien vu au moment des élections là, qui fasse campagne sur le nécessaire retour de la liberté. Ils veulent tous prendre le contrôle de l'État français, en quelque sorte. Pour être sûr qu'ils vont continuer à bien les coincer. Ouais. Alors que tout le débat aux États-Unis, c'est pour la liberté d'expression contre la liberté d'expression. Mmh. C'est plus de liberté ou moins de liberté. Au moins, ça, c'est un débat qui est clair.
Ouais.
Tandis qu'en France, vous avez entendu parler d'un accroissement de nos libertés?
Non, pas vraiment.
Aucun?
Non.
Aucun?
Non, j'en ai pas entendu parler. Non, on parle beaucoup de sécurité, ce genre de choses. Mais le fait est que on n'a pas non plus envie de vivre dans une société policière. On a envie évidemment d'avoir de la sécurité, mais on a aussi envie d'avoir de la liberté, et ça forcément, enfin des libertés. Et ça, c'est pas forcément.
J'ai le droit d'ouvrir ma gueule sans qu'on me mette en prison. Ouais, maintenant, vous savez, par exemple, vous savez combien de gens ont été poursuivis en Russie depuis 4 ans? Pour avoir dit des horreurs sur n'importe qui.
Peut-être quelques dizaines, quelque chose comme ça.
Il y en a à peu près 400 qui ont été poursuivis. Et sur les réseaux sociaux anglais, il y en a eu 4000.
Ouais.
Donc tout le monde vous dit la démocratie, c'est l'Angleterre, et l'autre, c'est la Russie.
Ouais.
Ben, vous voyez que la Grande-Bretagne aujourd'hui est en train de prendre des mesures contre la liberté d'expression. Pour moi, est vécu en Angleterre, est une aberration. Les Anglais sans la liberté d'expression, mais ça, ils vont péter un plat.
Mais justement, plus ils pètent un câble par rapport à ça, plus on les met en prison.
Plus on les met en prison. Et donc on fait sortir des vrais criminels de prison pour pouvoir emmerder des gars qui ont dit qu'il fallait arrêter l'immigration. Donc on a une espèce de rupture, dont j'ai souvent parlé, entre les classes dirigeantes et les gens qui sont en bas, qui ne fait que s'aggraver en Europe, quoi.
Ouais. Mais est-ce que c'est pas finalement... Comment dire? Est-ce que c'est pas justement ce qui fait encore plus, ce qui va faire encore plus exploser la bonbonne? Parce que quand on voit, j'avais pas forcément prévu d'en parler, mais quand on voit comment, par exemple, a été élu Keir Starmer au Royaume-Uni, c'est-à-dire en fait pas du tout par un engouement envers les travaillistes, mais par un recul net des conservateurs.
Non, mais surtout parce qu'il y a eu deux partis qui se sont partagés le vote conservateur à la place d'en avoir qu'un seul.
Plus.
Donc automatiquement, ils se sont retrouvés partout en tête, a été le Labour.
Ouais.
Et bien le Labour a été élu avec moins de voix qu'elle en avait fait dans l'élection qu'ils avaient perdu.
Oui, qui était déjà un désastre électoral.
Pour eux, ils ont fait moins de voix et ils ont eu 400 députés.
Ouais.
Donc on voit bien que ces systèmes électoraux ne marchent plus. Donc ce qu'il faut peut-être une fois pour toutes, ce que je dis tout le temps, c'est retourner vers la démocratie directe. Que ce soit pas M. Starmer qui prenne les décisions, mais que ce soit des référendums Ça éviterait que les extrêmes ne prennent le pouvoir.
Ouais, ça c'est.
Si c'est la majorité qui prend le pouvoir, la magistrature elle est toujours autour du centre, de côté de l'autre. Donc, mais dès que vous avez une démocratie représentative où ce sont les partis aux extrêmes qui font les majorités, c'est comme ce crétin de Jospin qui avait supprimé Super Phoenix, vous vous souvenez?
Oui, tout à fait.
Parce qu'il voulait les 3% pour les élections présidentielles.
Écolos,
il n'y a pas un gars qui s'est envahi à un référendum qui aurait voté pour arrêter le Super Phoenix.
Ouais.
Mais comme il voulait les 3% des corneaux Et on en paye le prix aujourd'hui.
Ouais, et c'est pareil. D'ailleurs, c'était pareil pour François Hollande en 2012 avec, c'était son accord avec les écolos qui a fait qu'on a fermé Fessenheim. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Mais si Super Phoenix est plus important que Fessenheim, mais
oui, parce que ça servait à brûler les trucs comme ça. On avait des réserves de nucléaire pour 2000 ans qui viennent, mais ouais. Avec, grâce à Jospin, on les a plus. Donc, vous voyez que cette espèce de démocratie représentative, c'est ce que montre très bien, d'ailleurs, Nassim Taleb. Il dit maintenant, c'est des gars qui sont tout à fait aux extrêmes, c'est-à-dire là ou là, qui forcent les autres à aller vers eux pour qu'ils rejoignent la majorité. Mmh. Et donc les décisions sont toujours prises complètement le plus loin possible du centre où se trouve la majorité des gens. Mmh. Donc la démocratie représentative telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, ça ne marche plus. Mmh. Et ça ne peut plus marcher presque mathématiquement, statistiquement, ça ne marche plus. Mmh. C'est ouais. Donc il faut changer quoi.
Mais d'un autre côté, il faut bien, comment dire, d'une certaine manière, arriver au pouvoir dans les conditions actuelles pour mettre en place une démocratie directe. Parce que sinon, c'est sûr, c'est pas les Macron ou Keir Starmer ou je sais pas qui vont rétablir la pratique du référendum.
Bien sûr que non, mais ça risque de se passer comme ça. Ça risque de se passer à grands coups de claque dans la rue à un moment ou à un autre. Parce ouais. qu'il y a un moment. Regardez en Angleterre, ils sont quasiment au bord de la guerre civile. Hein.
Ouais.
Donc, il y a un moment, il va falloir que il y ait des... Ce qui est embêtant, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes démocratiques représentatifs ne marchent plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'élite locale. Mm-hmm. Toutes les élites viennent de des mêmes trois jardins d'enfants à Paris. Et donc, ça marche plus. On a un système qui est complètement fermé sur lui-même, qui est plus ouvert sur le reste du pays. Donc, eh ben, on est dans une situation révolutionnaire, puisque les élites sont incapables de... La révolution, ça se passe quand les élites, d'après Toynbee, hein, quand les élites sont incapables de traiter les problèmes du bas.
Ouais.
Eh ben, on est exactement dans cette situation. Oui, donc on va vers une révolution.
Ouais.
Je sais pas ce que je dis quand je dis ça, je sais pas, enfin, on va vers des gouvernements
Oui, c'est sûr, on n'est pas en train de, comment dire, de mettre en place une continuité du pouvoir sur 30 ans, où tout va bien se passer, où tout le monde va être content de la démocratie telle qu'elle est.
Non, et on sait que ça marche pas, et on sait que l'effort de faire passer toute une série de décisions vers l'Europe, où dans le fond, il n'y aurait pas besoin de voter, donc on pourrait prendre des décisions populaires, ça marche pas du tout non plus.
Non.
Donc, on redécouvre que la décision doit être proche du citoyen, et plus elle est proche, plus elle est acceptée. Donc, ça veut dire qu'il faut renvoyer toute une série de pouvoirs vers le bas et sortir de cette démocratie représentative qui nous tue. Mmh. Et comme on va pas le faire, comme vous l'avez vraiment dit, on va pas le faire, ben ça veut dire qu'on va tout droit vers une crise politique très grave.
Ouais. Et en plus de ça, pas que dans un pays, parce qu'on a à peu près le même problème. Ça se déploie pas de la même manière, mais on a le même problème que ce soit en France, au Royaume-Uni, en Espagne d'une certaine manière, même si c'est un petit peu moins grave peut-être.
Mais en Italie, en Hollande maintenant, en Italie, en Hongrie, en Pologne. Ça commence à...
Il commence à avoir aussi des problèmes en Allemagne.
Mais ça commence quand même. Là, on voit des leaders nationaux
ouais.
qui représentent le cœur du pays. Il
ouais.
n'y a pas ces trucs à l'extérieur. Donc, on sent bien que même si vous voulez, un pays comme la Hongrie, alors qu'il est à la tête aujourd'hui, il doit l'être pendant 6 mois là, des affaires de la Commission européenne, la Hongrie, elle est littéralement, je crois qu'ils viennent de lui infliger une avance de je sais pas combien, 200 millions d'euros ou 2 milliards d'euros, je sais plus quoi. Donc, on voit bien qu'il y a une contradiction totale entre la souveraineté de la Hongrie et ce que dit Madame von der Leyen. Quoi.
Ouais. Oui, d'ailleurs, on ne sait pas exactement comment elle a été élue, von der Leyen, parce que elle a été élue cet été. On a l'impression que tous les députés européens, on a l'impression, ont fait campagne contre elle. Et pourtant, elle a été élue quand même avec une certaine facilité. On ne peut pas voir le bulletin des députés européens. Donc, c'est-à-dire que François-Xavier Bellamy a dit qu'il avait voté contre, mais on ne pourra jamais vérifier. L'autre, Manon Aubry, aussi pour la France Insoumise, a dit qu'elle avait voté contre, alors que on la voit juste après l'enlacer après l'élection de von der Leyen. Pareil, on ne pourra jamais vérifier son vote. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement opaque et qui pourtant a des conséquences très directes, très
tangibles. Et on réussit pas toujours à avoir le contrat des, comme a cité Madame von der Leyen, avec les fabricants de vaccins, qui a porté sur des dizaines de milliards de dollars. Donc on n'a toujours pas le contrat, elle a négocié ça toute seule.
Ouais.
Et donc il y a des espèces de contradiction. La démocratie, c'est le vote de l'impôt par les citoyens. Or, aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec les déficits budgétaires qui sont que des dépenses qu'il faudra que nos petits-enfants payent, il y a plus, donc on n'est plus en démocratie puisque l'impôt ne paye pas les dépenses de l'État. Mmh. Donc je veux dire, on n'a plus aucun signe que nous soyons en démocratie. Et les types s'en vont en chantant « démocratie, démocratie ». En fait, on n'est plus en démocratie du tout.
Oui, on le sent très bien. Il y a des élections, mais elles ne sont pas démocratiques.
Il y a des élections qui sont des espèces de théâtres d'ombre où on nous présente des guignols. Par exemple, comme nous a présenté M. Macron, d'un seul coup, M. Fillon a disparu en 2 minutes. Oui. Et puis on nous a présenté ce gars-là. Puis hop, on nous a dit « c'est pour lui qu'il faut voter ». Et on s'est tous précipités pour voter pour lui. Quoi.
On l'a très bien senti aussi pendant les élections législatives où... Alors pendant des mois, la France Insoumise avait été un peu diabolisée par le groupe centriste à cause de ce qu'il disait sur le Hamas, tout ça, d'accord, très bien. Et du jour au lendemain, comme il y avait une possibilité pour que le Rassemblement National, qui avait fait un très bon score au premier tour, ait une majorité absolue, d'un seul coup, il y a eu une sorte de coalition, voire même ça parlait de faire un gouvernement commun, faut s'en rappeler. Aujourd'hui, on pourrait l'oublier avec ce qui se passe, mais pendant une semaine, ils ont parlé de la possibilité de faire un gouvernement commun entre des gens, même des LR, jusqu'à certains membres de la France Insoumise, juste pour éviter absolument que le RN soit au pouvoir.
Je me souviens, cette... Le maire du Havre, qui avait été Premier ministre.
Oui, Philippe. Edouard Philippe.
Ce grand crétin qui dit qu'il préfère voter pour un communiste que pour un RN. Mmh. Mais c'est, je veux bien, mais les communistes, ils ont quand même tué 100 millions de personnes.
Ouais, ouais.
Donc je sais pas, mais moi, avant de dire je vais me vanter de voter pour un communiste, les communistes, c'est quand même les camps de la mort, c'est le tiers de la population cambodgienne, c'est la famine en... Enfin, je veux dire...
Ils se revendiquent du communisme, c'est-à-dire que certains...
Et ça n'a jamais été condamné par aucun communiste.
Ouais, voilà, exactement, c'est-à-dire que certains tentent de faire le pont entre l'extrême droite historique, c'est-à-dire le fascisme ou le nazisme, et le Rassemblement National, qui non seulement ne s'en revendique pas, mais condamne tous ces mouvements politiques historiques, alors qu'il y a une évidence continuité entre le PCF des années 40, des années 50, des années 30 et le PCF d'aujourd'hui. Ils n'ont jamais abjuré leur... ils n'ont jamais condamné leurs crimes.
Il n'y a jamais eu Nuremberg pour eux.
Ils étaient stalinistes sous Staline, ils étaient pour Khrouchtchev sous Khrouchtchev. Et aujourd'hui, si l'URSS existait encore, ils seraient encore en train d'écouter les ordres de Moscou. Donc
c'est ça qui est très curieux, si vous voulez, c'est que on a... une classe politique qui est refermée sur elle-même. Et moi, j'ai analysé ce qui s'est passé dans les élections. C'était la victoire de Paris sur la France, une fois de plus. C'est-à-dire que toute la France voulait changer et que le petit cercle parisien, qui se connaissent tous très bien, ils ont décidé qu'ils allaient faire des manœuvres pour que ça se passe pas.
Ouais.
Et donc, c'est encore une fois une victoire de ceux qui pillent la France sur ceux qui bossent.
Ouais. Et en plus de ça, comment dire... Il y a beaucoup de Français qui ont été un peu floués dans cette affaire parce que, alors certains, je peux le comprendre, ont fait barrage, mais pour des mauvaises raisons. Enfin, peut-être que la raison initiale pouvait être comprise, mais au final, c'est pas exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que certains, peut-être, avaient peur que le RN ait directement une majorité absolue et ils se sont dit, bon, de toute façon, le RN arrivera en premier, ils seront au gouvernement, mais peut-être que j'ai envie qu'ils fassent pas un gouvernement tout seul, mais qu'ils fassent participer d'autres gens pour former une majorité. Voilà, ça je peux le comprendre.
C'est les crétins comme Bayrou, ça.
Exactement.
C'est les gars, si vous voulez, qui veulent gouverner au centre et tout. En réalité, la France est dans un tel état qu'elle peut plus être gouvernée au centre. Maintenant, il va falloir qu'il se passe quelque chose de grave.
Et d'un autre côté, donc, ce qui s'est passé au final, c'est que le NFP est arrivé en tête, alors que évidemment le NFP est le groupe le moins souhaité en fait au gouvernement des trois. Aujourd'hui, on a 60% des Français de droite et 46% des électeurs ensemble qui regrettent d'avoir participé au barrage, parce qu'aujourd'hui ils voient ce qui se passe.
Ils apprendront jamais, ces imbéciles.
Non, je crois que ils ont vraiment
la 45e fois qu'ils le font.
Oui, oui.
Le coup du barrage, c'est Mitterrand qui l'a fait. Quoi, ça a 40 ans maintenant.
Plus.
Ça attendait, c'était en 80. Oui, c'était en 85.
Ça a 40 ans.
Ça fait 40 ans qu'on nous fait le coup du barrage. Attention les gars, au secours, Le Pen va arriver. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que vous n'avez pas Le Pen. Vous gardez Monsieur Bertrand, vous gardez Monsieur...
C'est exactement ce qui va se passer.
Donc on va se retrouver avec toute une série de gars qui n'ont qu'une vocation, c'est de continuer à recevoir des étrangers.
Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, parce que moi, j'ai un petit peu suivi les premières séances de l'Assemblée nationale où ils décidaient voilà, des vice-présidences, de tout ça.
Ils ont rien eu.
Et le RN n'a rien eu, alors qu'ils ont 50, même 60 députés de plus qu'avant. Et avant, ils en avaient. Ils avaient une vice-présidente, une vice-présidence, ils avaient quelques questeurs, enfin tout ça. Et aujourd'hui, ils ont rien. C'est-à-dire que le groupe centriste ensemble, alors même qu'ils ont moins de députés, veulent plus de pouvoir.
Mais c'est classique.
C'est-à-dire que menchevique,
ça voulait dire majoritaire, et bolchevique, ça voulait dire minoritaire, d'après ce que je me suis dit. Donc c'est les bolcheviques qui ont pris le pouvoir, qui ont tué tous les mencheviques, et c'était une façon de prendre le pouvoir dans l'ensemble. Donc dès qu'une minorité violente se met au pouvoir, et qu'il y a des gens... vous savez, c'est le bouquin de Houellebecq, là, qui dit que le prochain président de la République, ce sera un musulman qui prendra comme premier ministre Bayrou. Parce que Bayrou, il est toujours, l'islam, ça veut dire soumission. Donc, Bayrou, pour se soumettre à condition d'être au pouvoir, il est prêt à tout. Donc, je veux dire par là, c'est que cette classe est naturellement traître, naturellement, elle déteste la France, naturellement, attachée à ses intérêts. Et ça fait 40 ans qu'elle gouverne, depuis Mitterrand, et elle gouverne. Elle nous amène dans le trou, et quand il y a quelqu'un qui dit « je vais vous sortir du trou », il dit « surtout pas », parce que regardez, ceux qui nous amènent dans le trou, c'est vous. Peut-être les autres, ils vont nous en sortir, ils vont peut-être pas y arriver, mais ils vont peut-être faire des choses différentes, mais non. Donc, cette espèce de refus, qu'il y a ce qu'on appelle en termes de science politique, un retour d'expérience, c'est-à-dire que les Français voient, c'est Xavier Bertrand, etc., ils se disent « mais ça fait 40 ans qu'ils nous mènent de désastre en désastre », on ne leur permet pas de faire cette analyse parce que c'est mal pensé.
Ouais.
C'est bizarre.
Ouais.
Ils ne peuvent pas la faire tout seul?
Non. Non.
Et pourquoi?
Je sais pas. C'est bien la preuve justement qu'on n'est pas véritablement en démocratie parce qu'il y a un peu un côté. Le RN a le droit de participer aux élections, mais il n'a pas le droit de gagner au final. C'est vraiment le message qui a été envoyé. D'un coup, Mélenchon et Macron, l'espace d'une semaine, sont devenus quasiment meilleurs amis. À 20h05, pas une voix ne devait aller au RN. Ils ont fait toutes les tractations
en une semaine. C'est-à-dire que ça avait été préparé avant.
Ouais. En quelques jours, tout le monde s'est désisté au profit de l'autre. Il y a eu, je crois, quasiment aucune exception, si ce n'est peut-être une ou deux, quoi. Alors qu'au départ, il disait peut-être on va se retirer, sauf quand il y a des LFI. Et puis ensuite, un jour plus tard, c'était on va se retirer au profit de quelques LFI, mais on fera le tri. Et puis ensuite, au final,
je me suis retrouvé à Avignon avec un
voilà.
Fichier S.
Oui, exactement, avec l'antifa fichier S.
Il y a des pays comme Avignon, etc., c'est extraordinaire, parce que maintenant, ça fait longtemps que j'y vais souvent. Et vous avez des pays qui sont à 55% à droite, 60% à droite.
Ouais.
Et comme la droite est divisée, ça fait 40 ans qu'on est gouverné par la gauche.
Et il y a une partie, donc, j'imagine, suffisante de cette droite qui, du coup, a voté pour ce fichier S pour faire barrage au RN. C'est quand même complètement lunaire, quoi. C'est-à-dire que, est-ce que les gens ont regardé pour qui ils votaient, en fait? On a l'impression qu'ils n'étaient pas au courant. Enfin bon, c'est un épisode assez dramatique, mais très révélateur finalement de l'état de la démocratie dans laquelle
de décomposition intellectuelle dans laquelle la classe politique française est en train d'arriver. Quoi. C'est quand même. Comment voulez-vous respecter ces gens-là?
Mais d'un autre côté, est-ce qu'il fallait pas aussi un épisode comme ça pour vraiment?
Moi, je suis très content, honnêtement. Je sais pas. Mais il me semble tout à fait bien que les gars du Front National n'aient pas été mis en face des responsabilités de Premier ministre.
Parce que ça,
avec ce qui nous attend, il vaut mieux que ce soit ceux qui ont été responsables de ça, du style Macron et Bertrand, qui en prennent plein la tête, plutôt que les gars du Front National.
Alors effectivement, c'est aussi ce que je me suis dit, c'est-à-dire que il aurait été logique d'un point de vue démocratique que le RN arrive au pouvoir par rapport au score qu'ils avaient fait au premier tour. Enfin voilà. D'un autre côté, il y a deux choses. Effectivement, c'est pas le meilleur moment pour arriver au pouvoir.
C'est le pire, oui.
C'est peut-être le pire, oui.
C'est comme de prendre l'armée française en juin 40. Hein.
Oui, voilà.
Vous êtes sûr, ce qui est arrivé à Végan, ça lui a pas. Il avait quand on a débarqué. Comment il s'appelait le général qui nous a amené au désastre, mais on a mis Végan à la place, mais il n'y avait plus rien à faire, quoi. C'était perdu.
Effectivement, il y a un peu ce côté-là. Et puis, en plus de ça, malgré tout, je pensais que le RN était Gamelin, tout à fait. Je pensais que le RN était mûr pour arriver au pouvoir. Ils nous ont quand même montré quelques profils qui étaient un peu douteux. Et je me suis dit, bon, peut-être que ce parti politique n'est finalement
pas
tout à fait prêt.
Mais quelques mois dans les gars qui étaient élus. Mais alors, si vous allez chercher des profils douteux, vous en avez un paquet à LFI, vous en
avez
un paquet,
bien sûr,
chez les communistes, vous en avez tant que
vous
voulez
chez les socialistes. Évidemment, tous les projecteurs ont été mis sur les candidats du RN.
Évidemment, s'il y en avait un qui avait dit un jour que je sais pas quoi, mais si vous voulez aller chercher des profils douteux, qu'on aille les chercher là où ils existent depuis longtemps, je sais pas. Mais...
Ah non, il y en a déjà à l'Assemblée, c'est sûr. C'est sûr, tous les projecteurs ont été mis sur le RN. Mais effectivement, même si ça aurait été logique d'un point de vue, comment dire, politique institutionnelle, qu'ils arrivent au pouvoir, c'est peut-être mieux actuellement qu'ils n'y soient pas.
Mais cette décomposition du pouvoir est en train d'arriver en Allemagne, est très visible en Grande-Bretagne, est très visible en France, en Italie ça a déjà tourné, mais ça il y a longtemps que c'était revenu. En Espagne c'est bizarre parce qu'il y a mais la situation économique espagnole est pas si mauvaise que ça. Donc on voit très bien cette espèce d'écroulement de ce qu'on pourrait appeler la social-démocratie européenne, quoi.
Ouais, tout à fait.
Partout.
Tout à fait.
Partout, vous la voyez en Suède où ils sont en train de virer tous les immigrés, vous la voyez au Danemark où ils font la même chose.
Ça fait d'ailleurs un clivage en fait vraiment de manière objective, je dirais que les endroits où la droite peut-être populiste est arrivée au pouvoir, ou du moins dont les idées sont arrivées au pouvoir, sont que des endroits dans lesquels la démocratie est fonctionnelle.
Ouais.
C'est-à-dire que l'Italie, il y a des Italiens de gauche, il y a des Italiens de droite, bon, il y a un peu plus d'Italiens de droite que d'Italiens de gauche.
En tout cas, elle est arrivée au pouvoir par le vote, normalement.
Oui.
Et la même chose
avec
en Hongrie,
proportionnelle...
où il a été réuni 3 ou 4 fois.
Tout à fait. Et pareil en Suède. D'ailleurs, au final, la droite radicale, je crois, ne participe pas au gouvernement, mais évidemment que ses revendications ont été prises en compte dans la formation du nouveau gouvernement. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la première fois depuis 50 ans, donc depuis 1974, que la Suède est en déficit de migration. C'est-à-dire qu'il y a plus d'immigrés qui repartent que d'immigrés qui arrivent. Et dans les immigrés qui repartent, évidemment, c'est pas des Suédois qui vont aller vivre aux États-Unis. Sinon, c'est un peu triché. C'est vraiment des Irakiens, des Syriens, etc., qui repartent dans leur pays d'origine, qui ont eu éventuellement l'asile ou qui sont arrivés. On a dit, ils sont là. Et aujourd'hui, ils repartent beaucoup plus qu'ils n'arrivent. Et c'est la première fois depuis 50 ans. Et c'était pas une politique, comment dire, annoncée en grande pompe en disant, regardez, ça va être la remigration, machin, ça va être un truc de dingue. C'est vraiment des Suédois démocrates qui se sont dit, bah écoutez, il y a une large partie de la population qui demande ça. Si on ne leur offre pas ça, la société va devenir en fait ingérable, c'est-à-dire qu'on va peut-être arriver dans une guerre civile, et donc il faut gérer ce problème, et il n'y a pas besoin d'en faire tout un truc, voilà, juste on le fait, et aujourd'hui c'est en train d'être fait, et c'est
pareil au Danemark.
C'est pareil au Danemark, effectivement.
Mais en plus, le Danemark, c'est
les sociaux-démocrates qui l'ont fait, effectivement. Et c'est bien la preuve d'une démocratie qui est fonctionnelle, c'est-à-dire que en fait, on n'a pas forcément besoin de gagner en tant que tel des élections, de mettre des petits gars au pouvoir pour faire effectuer notre politique. C'est-à-dire que en fait, dans une démocratie fonctionnelle, et ben le gouvernement, d'où qu'il vienne, il a bien sûr peut-être des grands axes, il a une certaine philosophie, mais il est capable de se remettre en question, il est capable de mettre en place une politique et de faire appliquer des lois, même si à la base ce n'est pas forcément son corpus idéologique basique, juste parce que la population le veut.
Les sociaux-démocrates, enfin qu'on le veuille ou non, c'est que les sociaux-démocrates, en principe, leur principale responsabilité, c'est de s'occuper du peuple. Or, on voit très bien que nos sociaux-démocrates, ils ont trahi le peuple, et que nos gens de droite en France, mettons les chrétiens-démocrates, si il n'y en a plus, mais enfin, eux, ils ont trahi la nation. Donc, vous avez l'impression qu'en en Hongrie, ils n'ont pas trahi la nation, et en Suède et au Danemark, ils ont cessé de trahir le peuple. Nous, on continue à trahir, et le peuple, la nation. Donc vous dites, ça va pas bien se terminer.
Au nom de la République, c'est-à-dire qu'on dit que tous ceux qui ne sont pas centristes sont anti-républicains. Aujourd'hui, on a envie de dire...
C'est au nom des droits de l'homme et du citoyen. C'est dans la Constitution française. Maintenant, on nous parle des droits de l'homme tout le temps, mais dans la Constitution française, il est écrit des droits de l'homme et du citoyen. Oui. C'est-à-dire que c'est parce qu'il est homme et citoyen qu'il a des droits. Parce que maintenant, on est arrivé à l'idée que les gars qui est des droits de l'homme sont supérieurs aux droits du citoyen et antérieurs. Or, c'est pas vrai.
Ouais, effectivement. Et oui, au Danemark, ils voient ce qui se passe. Et d'ailleurs, les sociodémocrates en fait partent d'un constat qui est assez logique, c'est-à-dire que si on commence à accueillir absolument tout le tiers monde,
si on parle pas le danois, ben on a rien à foutre au Danemark.
Voilà, et on pourra pas justement assurer la social-démocratie d'un point de vue économique. Oui. En fait, on ne pourra pas avoir autant de social dans notre économie sans être dans le déficit absolument dans le rouge si on accueille tout le tiers-monde. Et au Danemark, ils ont des petits tableaux tout bien faits où ils voient quelle nationalité, en fonction du pays d'origine, si vous êtes contributeur net en moyenne ou déficitaire à l'économie. On voit qu'il y a des nationalités, principalement les nationalités européennes, qui sont des contributeurs nets, c'est-à-dire ce sont des gens, ils vont bosser au Danemark, eux ça arrange le Danemark aussi, généralement c'est des emplois plutôt qualifiés, tout ça. Et puis il y a d'autres nationalités, bon, on imagine bien, voilà, les Irakiens, les Syriens sont un peu moins contributaires à l'économie, ils sont plutôt font basculer leur
ils ont un avantage énorme, c'est qu'ils peuvent pas dire, on peut pas leur dire, ces gars-là sont venus à cause de la colonisation que vous avez.
Ah oui, ça c'est sûr.
Ils ont colonisé personne, donc.
Ouais.
Ça, nous.
Pareil pour la Suède d'ailleurs.
Pareil pour la Suède. Bon, ils avaient quelques petites colonies dans les Antilles, mais enfin c'était pas terrible, quoi.
Ouais. C'est pas de là que.
C'est pas de là qu'est venu. Ils avaient comme colonie d'ailleurs Saint-Barth.
Ah oui.
Saint-Barth était une colonie suédoise.
Ah, je savais pas.
C'était pendant longtemps.
Ouais.
Puis je crois qu'elle a été vendue à la France. Très tard.
D'accord, je savais pas. Pour parler de l'Allemagne aussi, donc là il s'est passé un truc ce week-end. Donc en Thuringe notamment, il y a eu des élections en Saxe, en Thuringe, c'est des élections régionales. Donc élections, il y a une sorte d'assemblée régionale. Il y a 80 députés par exemple pour la Thuringe. Il y en a un peu plus d'une centaine pour la Saxe. Et notamment en Thuringe, l'AFD a remporté l'élection locale du Länder. Alors on pourrait dire, certains disent que c'est un tremblement de terre parce que c'est la première fois donc depuis le régime nazi.
L'AFD est en tête d'une région. Oui.
Et en 2019, l'AFD avait fait un score plus que respectable, hein, quand même. Ils étaient arrivés en deuxième position derrière Die Linke, donc la gauche plutôt radicale d'ailleurs. Et c'est des élections sous forme de proportionnelles qui permettent d'envoyer donc des députés au Landtag, sorte de conseil régional allemand. Donc ce week-end, alors le score de Die Linke, donc qui était le gouvernement sortant de la région du Länder, a presque été divisé par 3 par rapport à 2019, alors que l'AFD de son côté a pris quasiment 10 points. Il y a aussi un invité qui n'était pas là il y a 5 ans, c'est le BSW de Sarah Wagenknecht. Donc c'était une scission de la gauche, hein, on en avait parlé l'an dernier d'ailleurs, une sorte de gauche vraiment très sociale, mais anti-immigration, anti-UE, anti-libre-échange, tout ça, qui a fait quand même 15,8% et qui arrive donc en troisième position à cette élection en Thuringe, moins d'un an après sa création. En Saxe aussi, il y a le succès, encore une fois, de l'AFD qui est assez important, mais il demeure le deuxième parti derrière la CDU qui reste très forte à plus de 30%. Le BSW aussi, donc cette scission de la gauche qui a fait une percée de 12% des voix. Et alors, au-delà de ces résultats qui sont évidemment des victoires au moins symboliques pour l'AFD, ce qui va être intéressant, c'est peut-être comment vont se comporter les autres partis par rapport à ça. C'est-à-dire que malgré
ils ont déjà fait, ils vont dire non, gouverne pas avec eux.
Exactement.
Ils ont déjà dit non, on refuse de se mettre d'accord.
C'est-à-dire que la CDU est arrivée deuxième en Thuringe, donc si la CDU s'alliait avec l'AFD, il pourrait avoir une très large majorité au niveau de la région, du Länder. Enfin, je dis à chaque fois région, c'est un peu français, mais au niveau du Länder, sauf que la CDU effectivement s'est prononcée contre cette alliance, c'est-à-dire qu'ils préféreraient peut-être être dans l'opposition plutôt que de gouverner dans ce Länder avec l'AFD. Et voire même ce qui est possible, ce qui serait totalement antidémocratique pour le coup, mais ce qui est possible, c'est une alliance de tous les partis contre l'AFD. Et là, pour le coup, ils auraient une majorité. Mais alors même que l'AFD est
arrivé. Le coup à la française, ça a déjà montré que ça marche.
Voilà, exactement.
Ça a montré que ça marche. C'est-à-dire, si vous voulez rester au pouvoir envers et contre tout, la seule façon, c'est celui qui représente un mouvement nouveau, tout le monde se met contre lui.
Oui, exactement. C'est vraiment l'alliance de tous contre un, et au bout d'un moment, il est possible qu'ils perdent quand même, parce que...
À un moment, s'ils continuent comme ça, à un moment ou à un autre, le tout seul, il fera 50,1 elle sera terminée, ouais. Parce qu'il n'aura plus besoin de personne pour gouverner. Et c'est là que les choses vont se gâter, d'ailleurs.
Et pour revenir un petit peu avant de terminer cette émission à la France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait tout un pataquès. Ça fait vraiment, c'est un des épisodes politiques qui m'ennuie le plus. C'est-à-dire qu'on se pose la question depuis un mois de savoir si le Premier ministre, ça va être Bernard Cazeneuve, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Là, on parlait hier de Thierry Baudet, qui est le président du CESE, c'est-à-dire
le conseiller économique. Et social, voilà. Qui est le repère de tous les...
Voilà, donc truc qui sert à rien et mec qui sort de nulle part, enfin bref, c'est vraiment la question la plus ennuyante que j'ai peut-être eu à traiter, sachant que quel que soit le Premier ministre, au final, il fera exactement la même politique, enfin je veux dire, ça va être une sorte de gouvernement.
Mais surtout,
un peu
ce qui m'intéressait, c'est que pendant qu'il discute de tout ça, il y a quelque chose qui est passé en entrefilet dans les journaux, c'est que le déficit budgétaire français est en train de se détériorer rapidement.
Tout à fait. Et on va en parler tout à l'heure.
Donc on est en train d'arriver. Allez, on sera sans doute, on est à peu près à 5,6%. Oui. Je vous signale qu'à la fin de l'année dernière, on devait être en dessous de 4. Hein, c'était,
ouais. Donc... Et l'objectif initial d'ailleurs de cette année, c'était 5,1. Donc c'était déjà, l'objectif initial était déjà vraiment pas terrible.
Ben oui. Et on sera sans doute au-dessus de 6 l'an prochain. Ouais. Ça veut dire que si vous ajoutez le déficit et le renouvellement de la dette, il va falloir lever 400 milliards par an sur les marchés. Encore une fois, je veux bien, les souscriptions se passent bien, je dis rien, mais il va se passer quelque chose, parce que il suffit qu'un jour qu'il y ait quelqu'un comme le Qatar ou je sais pas quoi, qui décide qu'ils vont plus renouveler, et à ce moment-là, je sais pas ce qui se passe. Quoi. Encore une fois, pour moi, ce qui se passe en politique, c'est intéressant. Enfin, ça intéresse... ce que Barre appelait la classe jacassière, mais la réalité, c'est qu'on est passé de 4,5 à 5,6 en l'espace d'un an sur le déficit. Donc, ce déficit se détériore à toute allure.
Oui, alors même, justement, que Bruno Le Maire
nous disait... On n'est pas encore en récession.
Voilà, il arrêtait pas de nous dire, on va faire des économies, on va prendre la lumière par-ci,
on devait tomber en dessous de 5, et voilà. Pas du tout, on sera au-dessus de 6. Alors, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que le déficit est en train de déraper de façon effroyable. Ouais, et c'est beaucoup plus important que le Premier ministre.
Ouais, et d'ailleurs, c'est en grande partie à cause des rentrées fiscales qui ne sont pas aussi importantes que Bercy pensait.
Parce que le pari industriel français serait en train de s'écrouler par effondrement des commandes.
Voilà.
Ben oui, donc évidemment, si vous avez des corneaux comme Monsieur Mélenchon qui parle dans la Poste, ben vous n'avez pas un chef d'entreprise qui va augmenter ses investissements.
Oui, c'est clair. C'est clair. Oui. L'entrepreneur essaye de prévoir l'avenir.
Ben non, il va se mettre en cash flow positif pour dire je veux pas prendre de moins de risques.
Ouais, c'est sûr.
Donc je vais virer des gens, je vais arrêter d'acheter des machines, mais en faisant ça, il condamne son entreprise à terme à 5 ans contre les Allemands, les Italiens, n'importe quoi.
C'est sûr. Donc, et puis en plus de ça, il se passe quelque chose au niveau du gouvernement potentiel, c'est-à-dire que en fait, il serait de toute façon quel qu'il soit, il sera très fragilisé parce qu'il y aura une partie du NFP qui voudra voter une motion de censure, le RN aussi, le RN a dit qu'il voterait une motion de censure s'il y avait un gouvernement du NFP, il a dit qu'il voterait une motion de censure s'il y avait un gouvernement Xavier Bertrand, enfin voilà, de toute façon ça sert à rien de psychoter pendant des semaines et des semaines, de toute façon le gouvernement qui va sortir va être fragile et il va probablement
s'il
tomber en
quelques
semaines.
S'il n'y avait pas le déficit budgétaire,
ouais.
Moi, ce que je dirais, c'est, vous savez, de la Belgique, pendant 2 ans et demi, il y a quelques années, il n'y a eu aucun gouvernement, là. Il a fallu un temps fou. Je dirais, enfin, on arrive dans une situation agréable où il n'y a plus de gouvernement, donc le montant de conneries va s'arrêter.
Mais
l'embêtant, c'est qu'on est parti sur une dérive du budget.
Alors, certes, mais d'une certaine manière, malgré cette dérive du budget, il y a quelque chose d'assez reposant à ne pas avoir d'annonce gouvernementale tous les 2 jours, d'avoir un
nouvel impôt.
Ouais, nouvel impôt, nouvelle réforme.
Je sais que ma taxe d'habitation à Paris est montée de 35%.
Ah oui. Ouais.
Et je parle pas de sommes faibles, hein, c'est. Je me suis dit, Dieu. Je vois que je suis content d'avoir payé pour les Jeux Olympiques, mais il y a des limites, quoi.
Ouais.
Et donc je me dis, combien de gens en France regardent leur taxe d'habitation, ils sont en train de se dire, mais comment je vais faire?
Oui, pareil, l'impôt sur les sociétés, les chefs d'entreprise ont reçu un petit mail, hein, cet été en leur expliquant comment leur taxe aussi allait augmenter sur les 3-4 prochaines années. Et pareil, c'est pas très beau à voir.
Donc, si vous voulez, vous voyez cette pression fiscale qui monte, ce déficit budgétaire qui monte, des chefs d'entreprise qui sont quand même, qu'on le veuille ou non, complètement découragés. Rien ne marche en France. Et tout ce petit monde à Paris est fou de bonheur parce qu'ils veulent savoir si ça va être Xavier Bertrand ou Ducon-Lajoie.
Ouais.
Mais on s'en fout. vous n'avez aucune importance. Ouais. Ces gens-là ne représentent rien, ni le président de la République, qui n'a plus aucun pouvoir, ni ces gens-là. Ils sont là, ils s'agitent dans une espèce de désert intellectuel et politique, en disant « je suis important, regardez comme je suis important ». Mais ils ne représentent plus rien, ils ne sont plus rien.
Je suis d'ailleurs très, très heureux que le Rassemblement National ne participe pas trop à ce cirque. C'est-à-dire que le NFP, ça
d'ailleurs,
fait
ils
depuis...
sont tués. Oui, ils ont bien fait pendant tout l'été.
C'est très, très bien.
Ils ont bien fait, ils sont tués.
Oui, tout à fait. Alors que le NFP n'arrêtait pas de faire du forcing avec leur Lucie Castet qui sort de nulle part, qui est une énarque parisienne.
Et qui a foutu en l'air la ville de Paris, d'ailleurs.
Enfin bref, c'est oh là là, c'est d'un ennui, mais
voilà, c'est ça, c'est qu'ils sont là, ils s'agitent dans leur théâtre d'ombre, mais il y a plus personne dans la salle.
Oui.
Pour les regarder.
Oui oui.
Il y a plus personne, tout le monde s'en fout.
Les journalistes sont en boucle là-dessus, mais je vois pas qui ça intéresse vraiment.
Mais personne. Donc nous sommes aujourd'hui un pays en jachère qui n'est plus une démocratie et dans lequel un personnel politique grotesque. Ça me rappelle le départ de Pétain vers Sigmaringen, où tous les types qui étaient soi-disant au gouvernement se disputaient les uns les autres pour savoir qui aurait la chambre auprès du maréchal, qui pourrait le voir à 9h du matin, alors qu'ils ne représentent plus rien. Donc tous ces gens-là ne représentent plus rien. Ils sont comme des fantômes du passé. Vous savez, Kipling raconte que quand il a vu la grande parade pour le jubilé de la reine Victoria, il y avait c'est de l'impératrice, il y avait les troupes, les grands régiments anglais qui défilaient devant la reine Victoria, et Kipling était là, et il dit, d'un seul coup, j'ai eu l'impression que il marchait en marche arrière, c'est-à-dire qu'on voyait le passé. Mmh. Toutes ces troupes qui défilaient, c'était l'apogée de l'Empire britannique, et il a dit, j'ai eu l'impression qu'il rentrait dans le passé, vous voyez. Et quand je vois ces agitations, je me dis, sont des hommes des ombres, des hommes du passé qui ne représentent rien, qui sont nuls, qui sont bêtes, qui sont méchants, qui sont vérolés, et ils représentent rien, et ils s'agitent.
Tout à fait, on sait qu'ils sont dans une situation extrêmement instable, qu'ils sont là par un concours de circonstances. Le prochain Premier ministre n'aurait pas été élu par les Français si on savait qu'il allait être Premier ministre. Ça, c'est absolument évident. Les Français ne voulaient plus
C'est comme Hollande qui est arrivé président de la République, tout le monde se demandait d'où il sortait, celui-là.
D'ailleurs, il sera peut-être Premier ministre, on ne sait pas.
Oui. Moi, je pense qu'ils vont nous ramener Sarkozy. Tant qu'à faire, ça va faire de nous ramener
pas.
Une branche pourrie.
Au moins, ce serait peut-être, il y aurait peut-être un petit peu de divertissement, je dirais, même si c'est pas très intéressant, mais il y aurait peut-être un petit peu de divertissement.
Et puis c'est la première fois qu'on aurait un Premier ministre qui aurait un bracelet à la patte.
Effectivement.
Ce serait gay.
Enfin voilà, donc cette question du gouvernement, elle agite beaucoup la presse et la télévision, mais je sais pas à part ça qui ça intéresse. De toute façon, le gouvernement va être très fragile, il va peut-être tomber en quelques semaines et juste après il faudra de nouveau refaire une autre majorité avec un autre Premier ministre. Il est pas du tout impossible, et moi je pense que c'est peut-être la thèse la plus probable, c'est qu'il y ait de nouveau, alors peut-être une succession de motions de censure. Il peut pas y avoir de dissolution avant un an après les dernières élections, donc il pourra pas y en avoir avant juillet, mais c'est pas du tout impossible qu'il y ait de nouveau une dissolution d'ici, du coup à partir de maintenant, d'ici un an, et qu'on reconvoque encore une fois tout le monde, parce que d'une certaine manière le dernier résultat a été un faux tirage. C'est vraiment un concours de circonstances. Il y a beaucoup de gens qui regrettent déjà leur vote. Aujourd'hui, je vous en ai parlé, 60% des gens de droite et quasiment 50% des électeurs ensemble qui regrettent d'avoir fait barrage, alors même que le gouvernement n'a pas encore été choisi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment énorme. Il y a eu cette parenthèse enchantée des JO où pendant un instant tout le monde a été suspendu dans le temps. Tout le monde s'est dit peut-être que les Français ont oublié un peu l'état de leur pays. Dès que les JO sont terminés, les Français étaient très conscients de l'état de leur pays, et aujourd'hui ils se font absolument aucune idée.
Non, tout à fait. Donc, maintenant, je crois qu'on va arriver à... Donc, ce qui va arriver, si j'analyse ce que vous dites, il n'y a pas de solution politique. Donc, le gouvernement, le président, va invoquer l'article 16 et gouverner par décret.
Alors oui, tout à fait.
Sur mon avis, c'est la prochaine chute du gouvernement. Il invoquera l'article 16 en disant, écoutez, je ne peux pas gouverner. Donc,
Absolument possible, oui. Oui, c'est tout à fait possible qu'ils se disent, finalement, l'Assemblée, en fait, ne peut pas gouverner, donc c'est à moi de le faire.
Ouais.
Et voilà.
Et à ce moment-là, il n'y a plus de séparation des pouvoirs.
Ouais, plus de séparation des pouvoirs, et c'est la prochaine.
D'ailleurs, je vais prendre le contrôle de la justice aussi.
Oui, tant qu'à faire.
D'ailleurs, c'est déjà fait.
Oui.
C'est pas pour ça qu'on avait mis ce pantin qui était.
Oui, Dupond-Moretti. Ouais.
Dupond-Moretti.
Enfin, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie d'évoquer aujourd'hui. Il y aura
donc,
encore
ça a été un été chargé, mais Pendant que les gens faisaient n'importe quoi, nous, on a travaillé.
Ouais, du moins, on a été un petit peu attentifs avec du recul.
On a travaillé sur tout ce qui était la façon de vous aider à gérer votre épargne, dont on va parler aussi. Mais pour moi, c'est essentiel. Bon, je crois qu'il va falloir que...
On va conclure, tout à fait. On en termine avec cette émission. Donc déjà, je vous remercie pour votre attention lors de cette première émission de la saison. Et puis, on va se revoir très vite sur l'Institut des Libertés. Et puis, pour ceux qui sont clients, sur l'Université de l'Épargne. Là, on va enregistrer à l'instant. Je vous dis bonjour aussi à vous qui nous faites confiance pour ce programme. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion.
Il y a le chien qui vient d'entrer.